Amis, avant de faire la dernière étude de cette série, de la première série, car demain, Dieu voulant, je commencerai la deuxième série qui sera peut-être encore plus importante que la première, mais vu mon grand âge et quelques problèmes qu'on doit avouer, car le corps se dégrade quand on va contre les 90 ans, n'est-ce pas? C'est pas la même chose. Franchement parler, qu'il y a même encore 10 ans, hein, et sans penser que quand j'avais 60 ans, donc un jeune homme, en ce temps-là, vigous, marchant comme un militaire. Mais ce qui n'est pas possible à nous les humains est possible à notre Sauveur et Seigneur. Je dois donc me remettre entre ses mains pour cette dernière étude assez difficile comme les précédentes. Prions donc. Avant de commencer, Yahvé, l'Éternel, El Shaddai, Adonai, Dieu de l'univers, Dieu de Enoch, de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, d'Élie et tous les autres saints, et les saints de notre époque. Je prie en votre saint nom, ô mon Père céleste, et je vous demande humblement, permettez que le Seigneur Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, et le Saint-Esprit puisse s'emparer de ma bouche, de mon être, et que vraiment je puisse aller jusqu'au bout sans aucune faute et sans être obligé de réfléchir longuement sur une phrase, etc. Je me remets entièrement entre tes mains, mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et merci de donner maintenant que le Saint-Esprit, de toute sa puissance, s'empare de moi à 6 heures ce matin, avant les bruits du dehors, des marteaux-piqueurs et des machines. Merci de m'aider maintenant d'une façon surnaturelle. Je me confie totalement en toi, mon Sauveur et Seigneur. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Comme je viens de le dire, mes chers frères et sœurs, ceci est l'étude numéro 30, la fin de la première série, et le titre sera « La croissance dans la grâce ». Et le verset est tiré de la deuxième épître, chapitre 3, verset 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, je dois terminer ces études de cette première série en donnant aux convertis des instructions sur la croissance dans la grâce. Et je me propose de montrer, premièrement, ce que est la grâce, deuxièmement, ce que ne signifie pas croître dans la grâce, troisièmement, ce que signifie croître dans la grâce, quatrièmement, les conditions de la croissance dans la grâce, cinquièmement, ce qui n'est pas une preuve de croissance dans la grâce. Très important, sixièmement, ce qui est une preuve de croissance dans la grâce. Et septièmement, comment croître dans la grâce. Premièrement, ce que est la grâce? La grâce est une faveur. Ce mot est souvent employé dans la Sainte Bible, dans le sens de don absolument gratuit. La grâce de Dieu et la faveur de Dieu, c'est un don gratuit. Deuxièmement, ce que croître dans la grâce ne signifie pas. Croître dans la grâce n'implique pas l'abandon gratuit du péché. C'est étrange à dire. Il semblerait que quelques personnes l'ont compris ainsi. Mais nulle part dans la Sainte Bible il ne nous est commandé d'abandonner graduellement le péché. Partout, il nous est commandé de l'abandonner instantanément et entièrement. Je répète parce que c'est important. Nirgendwo in der Heiligen Schrift, à nulle part dans la Sainte Bible, il ne nous est commandé d'abandonner graduellement le péché. Mais partout, il nous est commandé et recommandé de l'abandonner instantanément et entièrement. Drittens, troisièmement, ce que signifie croître dans la grâce. Croître dans la grâce implique le devoir de croître dans la faveur de Dieu, dans son estime, de mériter de plus en plus sa faveur. Quatrièmement, nous avons les conditions de la croissance dans la grâce. Alors là, écoutez bien, dressez vos oreilles. La croissance ou l'accroissement en quoi que ce soit implique un commencement. Croître dans la grâce de Dieu implique que nous avons déjà trouvé grâce à ses yeux, que nous lui sommes débiteurs de la grâce reçue et que nous sommes déjà dans la grâce, dans ce sens que nous avons pris rang parmi ceux qu'il agréait. En conséquence, croître en grâce implique que nous sommes déjà repentis de nos péchés, que nous avons réellement et pratiquement abandonné tout péché connu. Il n'est pas possible que nous soyons agréés de Dieu si nous nous livrons à un péché connu. Être agréé de Dieu signifie bien entendu que nous avons obtenu son pardon et sa faveur à cause de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le pardon, c'est la grâce et il implique le renoncement à la rébellion contre Dieu. Les conditions révélées de la Sainte Bible pour obtenir la faveur divine sont la repentance, l'abandon de tout péché connu et la foi en notre Sauveur Jésus-Christ. En d'autres termes, nous devons déjà être des chrétiens agréés de Dieu, avoir accepté Christ pour autant que nous l'avons compris. Nous devons être dans un état d'obéissance à toute la volonté de Dieu reconnue comme telle. Mais si nous sommes en état de grâce, il y a place pour une croissance sans fin. À mesure que nous aurons une place plus grande, une plus grande connaissance de Dieu, nous serons capables de l'aimer davantage et d'avoir en lui une confiance plus étendue et plus implicite. Et ceci ne peut prendre fin tant que nous existerons ni dans ce monde, ni dans l'autre. Notre amour pour lui, notre confiance en lui, peuvent être parfaits pour autant que nous le connaissons. Cet amour et cette confiance nous assureront sa grâce, mais il n'y a point de fin à notre croissance dans sa connaissance. Et par conséquent, il y a la place pour une éternelle croissance dans la grâce. Plus nous aimons Dieu, plus nous croyons et plus aussi nous le connaissons. Si nous agissons conformément à cette connaissance, plus nous plairons à Dieu et plus nous montrerons que nous allons monter dans son estime. Et là, plus nombreux et plus grands seront les dons qu'il continuera à répandre sur nous. La croissance dans la connaissance de Dieu est une condition de la croissance dans sa faveur. Nous pourrions croître en connaissance sans croître en sa faveur, parce que nous pourrions ne pas l'aimer et nous confier totalement en lui, proportionnellement à l'accroissement de notre connaissance. Mais nous ne pouvons pas l'aimer ou nous confier en lui plus parfaitement, à moins de connaître plus parfaitement ses voies. Si notre amour et notre foi marchent de pair avec notre connaissance croissante, nous devons croître dans sa faveur. La croissance dans la connaissance doit être une condition de croissance dans l'amour et dans la foi. La croissance dans la connaissance de Dieu, telle qu'il a été révélé en Jésus-Christ, est une condition de croissance dans sa faveur. C'est en Jésus-Christ et par lui que Dieu se révèle à l'homme. C'est au moyen de Jésus-Christ que nous obtenons une idée vraie de la personnalité du Dieu infini. C'est pourquoi le texte dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». La croissance dans la grâce a pour condition une connaissance croissante de ce qu'implique une entière consécration à Dieu. La véritable conversion à Dieu embrasse la consécration de nous-mêmes à lui, ainsi que de tout ce que nous avons pour autant que nous comprenons ce que cela implique. Mais au début, les convertis ne sont aucunement au courant de tout ce que implique une consécration complète. Ils s'apercevront bientôt que certaines choses auxquelles ils n'ont pas songé n'ont pas été livrées à Dieu. Au début, peut-être, leur seule pensée était de déposer toute leur âme sur l'autel et de donner tout leur cœur à Dieu. Mais bientôt, ils découvriront qu'ils n'avaient pas pensé à leur bien, à tout ce que leur était cher. Ils n'avaient pas tout abandonné et ne laissant pas un ongle en arrière, selon Exode, chapitre 10, verset 26. Ils avaient livré tout ce à quoi ils avaient pensé, mais ils n'étaient pas entièrement éclairés et ne pensaient pas et ne le pouvaient pas à ce moment-là, à tout penchant, à toute passion, toute tendance, tout désir, toute affection et à tout ce qui leur est cher dans la création entière pour en faire un abandon total entre les mains de Yahvé l'Éternel. Voici ce que dit un nommé Charles Finet, un très grand homme de Dieu du début du 19e siècle. Il dit ceci: sans l'esprit de prière, vous ne pouvez rien accomplir. Si même pour un jour ou pour une heure, j'avais perdu l'esprit de grâce et de supplication, je me serais trouvé incapable de prêcher avec efficacité ou de gagner des âmes par des entretiens personnels. Je me trouvais moi-même si accablé sous le poids des âmes immortelles que j'étais contraint de prier sans cesse. Je ne puis dire à quel point j'étais convaincu que Dieu exaucerait les prières que j'offrais dans une telle agonie et avec une telle foi. Mon impression était que la réponse était proche, même à la porte. Oui, vous n'obtiendrez, chers amis, de lumière spirituelle que par l'enseignement intérieur du Saint-Esprit, et si vous persévérez dans la véritable attente d'un disciple du Christ. Rappelez-vous qu'il a dit: ainsi donc, quiconque d'entre vous se renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Saint Luc 14, verset 33. Là, il ne faut pas péter les plombs et penser que nous devons tout donner et nous-mêmes nous mettre en difficulté et être peut-être dans la rue en train de faire l'aumône. Ce serait faire plaisir à Satan. Donc, nous devons garder raison et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cet équilibre. N'oubliez jamais que nous arrivons à la fin de la dispensation de la grâce et qu'il y aura des choses épouvantables dans le ciel et sur la terre. Ceci pour ébranler l'être humain dans son ensemble. Malheureusement, il est dit dans ma Bible allemande, mais je sais que les autres Bibles de toutes les langues confirme que, bien au contraire, ce sera comme au temps de Sodome et Gomorre, le cœur de l'être humain s'endurcira au fur et à mesure que les calamités vont s'abattre sur cette terre. C'est pas moi qui le dis. Mais c'est à nous d'être victorieux, mais aussi de demander d'être sage et de ne pas faire ou entreprendre des choses qui pourraient nous mettre en danger. Nous devons garder toute notre énergie pour pouvoir continuer tant que nous pourrons ce que le Seigneur nous a mis dans le cœur de faire. Chers amis, croyez-moi, il ne sera pas votre maître divin par son Esprit Saint, à moins que vous ne renonciez à vous-même, mais là, je vous ai expliqué qu'il faut garder raison et que vous ne viviez dans une consécration continuelle à Christ. Pour obtenir et conserver au moyen du Saint-Esprit, der Heilige Geist, the Holy Spirit, les enseignements de Christ, vous devez les demander sans cesse dans la prière et avec ardeur et prendre garde de ne pas lui résister ni de le contrister. Une autre condition de croissance dans la grâce, c'est de nous conformer constamment à tous les enseignements du Saint-Esprit et d'être fidèles à nos convictions quant à notre devoir et à notre connaissance croissante de la volonté de Dieu. Une autre chose importante, c'est qu'une sensibilité plus profondément sanctifiée est également une condition de croissance dans la faveur de Dieu. Par la sensibilité, j'entends ce qui dit dans notre nature, ce qu'on sent, ce qu'on désire, tout ce qui appartient à ce que nous appelons désir, affection, émotion, sentiment, appétit, passion, tendance et convoitise. La sensibilité est une faculté involontaire. Les actions et les vertus morales ne peuvent pas, strictement parlant, lui être attribuées. Les états de la sensibilité n'ont un caractère moral que pour autant qu'ils l'obtiennent, directement ou indirectement, de l'action de la volonté. Considérer dans son ensemble la nature de l'homme dans son état de dépravation est très peu attrayante, quoique la volonté puisse être livrée à Dieu, la sensibilité déplaît à celui, donc à Dieu, qui connaît parfaitement tout désir, toute passion, toute tendance et toute convoitise. C'est essentiellement par la sensibilité que la tentation nous assaille. C'est la sensibilité qui nécessite le combat du chrétien, qui consiste dans la lutte de la volonté, on peut dire, contre ses divers appétits, ses passions, ses tendances et convoitises, pour les maintenir soumis à la volonté de Dieu. Si la volonté demeure intègre et s'attache à la volonté de Dieu, l'âme ne pèche pas dans sa lutte contre les sensibilités excitées. Mais ces tendances rebelles gênent la volonté dans le service de Dieu. Les soumettre accaparent beaucoup de temps, de pensée et de force. Dès lors, l'âme réagissant avec toute la force de la volonté pour subjuguer ses tendances, ne peut pas rendre à Dieu un service aussi complet qu'elle l'aurait fait en d'autres temps. Bien qu'elle ne soit pas péché en elle-même, ses inclinations, ses tendances, ses passions ont été considérées comme le péché inhérent et nommées ainsi. Strictement parlant, elles ne peuvent pas être péchées. Pourquoi? Parce que elles sont involontaires. You don't do it because you want to do it. Mais elles sont très souvent un grand obstacle à notre croissance dans la faveur de Dieu, bien sûr. Car la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et j'en sais quelque chose. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Galates chapitre 5, verset 17. Ceci signifie quoi? Ceci signifie que nous ne pouvons pas faire pour Dieu ce que autrement nous ferions parce que nous avons tellement à lutter contre notre sensibilité pour la subjuguer. À mesure que la sensibilité est maîtrisée et en harmonie avec la volonté soumise à Dieu, nous sommes libres de lui rendre un service moins entravé. Chers amis, une consécration toujours plus complète et étendue de l'esprit, de l'âme et du corps est une condition de croissance continue dans la faveur de Dieu. Au début de l'expérience chrétienne, il arrive fréquemment que la fermeté de la volonté dans sa soumission à Dieu soit subjuguée par les appétits, les passions, les tendances fortement excitées ou par les divers états de la sensibilité. Chaque fois que la volonté cède à cet appel, vous péchez. Mais en pareil cas, le péché n'est pas volontaire. Il n'est pas volontaire dans ce sens qu'on n'a pas péché délibérément, c'est-à-dire intentionnellement. Il s'agit plutôt d'une inadvertance, d'un glissement momentané sous la pression de sentiments très vifs. Cependant, cette façon de céder est, hélas, quand même considérée comme un péché. Mais là où la volonté ne cède pas, il n'y a pas strictement parlant de péché. Toutefois, tandis que la volonté est ferme et sa consécration et son obéissance à Dieu est donc intacte, tout restera intact et de ce fait il y aura quoi? Il y aura la victoire. Pourquoi ne pas dire Alléluia? Dès lors, ce revêtir d'une plénitude plus grande de la nature divine est une condition de croissance dans la faveur de Dieu. La volonté et la sensibilité de Dieu sont nécessairement dans l'état suprême de la perfection et de l'harmonie. Tous ces désirs et tous ces sentiments sont en parfaite harmonie avec son intelligence et sa volonté. Il n'en est pas de même pour nous dans notre dépravation physique. La dépravation de la sensibilité est nécessairement physique puisque involontaire, donc c'est un état de déchéance. Il faut que cette partie déchue de notre nature, de ma nature, soit relevée, qu'elle soit sanctifiée, qu'elle soit entièrement harmonisée à nouveau avec notre volonté consacrée et notre intelligence éclairée, sinon nous ne serons jamais en état de vivre au ciel. À mesure que nous participons de la nature et de la sainteté divine, nous sommes complètement sanctifiés, esprit, âme et corps, et nous croissons de plus en plus dans la grâce de Dieu. Attention, vous savez, nous devons, pour être honnête, toujours être assez humbles de reconnaître que nous sommes pas grand-chose. Et je dois reconnaître devant vous, car rien n'échappe au Seigneur. Pendant, on peut dire, 50 ans, pendant 50 ans, j'étais un chrétien, on peut dire uniquement dans la tête, puis encore, une tête qui avait peu de choses, puisque ceux qui connaissent l'enfance que j'ai eue, il y avait vraiment plutôt que les démons de Satan, pour finir, et je fais ça d'une façon imagée, à Alcatraz ou à Sing Sing. Mais c'est pour simplement donner du courage à ceux qui pensent qu'on doit, que vous devez, à l'âge de 30 ans, avoir reçu tout le paquet d'un coup comme ça, parce que vous le méritez plus que toutes les autres au monde. Il y en a que ça peut arriver, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Pour la majorité, ce n'est pas le cas. Donc, ayez un peu de patience. La lutte est grande. Et le Seigneur nous aide à avancer. S'il m'a permis d'arriver à un grand âge et que j'aurais dû faire ce que je fais maintenant il y a déjà 50 ans, eh bien, c'est de ma faute, c'est pas de la faute au Seigneur. Uniquement de ma faute. Mais j'essaye maintenant de tout faire pour lui plaire. Et cela afin que des âmes puissent écouter ces études et connaître le salut éternel, être sauvés pour l'éternité, être arrachés aux griffes de Satan et à leur tour de servir le Seigneur Jésus-Christ. Or, chers amis, c'est une chose de connaître Christ seulement sur le papier et tel qu'il en est parlé dans la Sainte Bible, en lisant ou en entendant parler de lui. Mais c'est tout autre chose de le connaître personnellement dans ses relations sacerdotales avec nous. La Bible est le moyen d'introduction à sa personne. Ce qu'elle nous en dit est destiné à nous amener à rechercher une connaissance personnelle de Christ. C'est par cette connaissance personnelle que nous sommes rendus semblables à lui. C'est par ses relations personnelles avec son Esprit Saint, son Esprit divin, que nous revêtons son image. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, une image de gloire en gloire, comme par le Seigneur et son Esprit Saint. Deuxième épître de Corinthiens, chapitre 3, verset 18. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Et la foi nous procure une connaissance personnelle de Christ. Il a promis de se manifester lui-même personnellement à tous ceux qui l'aiment et lui obéissent. Ne manquez pas d'obtenir cette manifestation personnelle de Christ à votre âme et esprit. Votre croissance dans la grâce en dépend. Ne manquez pas de connaître Christ dans la plénitude de toutes ses relations. Retenez bien que l'appropriation de Christ est un acte de foi personnelle. C'est vous revêtir du Seigneur Jésus-Christ comme étant votre sagesse, votre justice, votre sanctification et votre rédemption. Cinquièmement, nous avons, et plutôt nous allons voir ensemble maintenant, ce qui n'est pas une preuve de croissance dans la grâce. La croissance uniquement dans la connaissance n'est pas une preuve concluante de croissance dans la grâce. Un certain degré de connaissance nous est indispensable pour être agréé de Dieu. Donc, la connaissance n'est pas la grâce, et la croissance dans la connaissance ne constitue pas la croissance en grâce. Une personne peut croître tant et plus en connaissance et n'avoir rien de la grâce. En enfer, les damnés ne peuvent que augmenter en connaissance, paraît-il, et cela au fur et à mesure qu'ils font l'expérience de la justice de Dieu. Mais ces progrès en connaissance ne font qu'aggraver la culpabilité et les douleurs de l'enfer. Ils connaissent de plus en plus Dieu, sa loi, leur culpabilité, et plus ils en savent, plus ils sont misérables. Ils ne se servent jamais de l'accroissement de leur connaissance pour devenir pieux, ni d'être en paix. Chers amis, écoutez bien ceci. Un Christ, un chrétien, peut croître en don. Il peut devenir plus abondant dans la prière, plus éloquent dans la prédication, plus pathétique dans l'exhortation, sans être plus saint. Nous faisons naturellement des progrès dans les choses où nous nous exerçons. Une personne qui s'exerce souvent à l'exhortation, si elle y apporte ses efforts et ses soins, acquérera naturellement plus de facilité et de puissance. Mais on peut faire tout cela sans avoir aucunement la grâce. On peut prier, même d'une manière intéressante, parler avec plus d'abondance, sans avoir la grâce. J'ai connu un homme dans la quarantaine, j'étais en ce temps-là également dans la quarantaine, il pouvait, dans des nuits de prière, prier d'une façon tellement fabuleuse que tous en enviaient. Comment est-ce qu'il faut dire on était neidisch. Oui, c'est une sorte d'envie pas très saine. On l'enviait, hein, on en était jaloux. Et cet homme-là m'avouait que même des fois le lendemain d'une nuit de prière, il retournait à des choses sadiques, horribles sur le plan sexuel, qui sont une abomination à l'Éternel. Mais maintenant, vous savez, il y a des gouvernements qui donnent leur aval, leur bénédiction pour pouvoir faire toutes ces choses que, au temps de Sodome et Gomorre, était devenu défendu. Nous sommes en plein dans les temps de la fin. Donc, ne soyons pas trop envieux de ceux qui peuvent démontrer devant les autres une sorte de sainteté apparente qui est pour en quelque sorte émouvoir et qui fait plaisir à la galerie. Ça fait penser à celui qui était le plus haut au ciel autrefois. Il était le plus brillant de tous les anges et archanges. Nul était semblable à lui. Faisons bien attention donc. Chers amis, il n'est pas rare de voir des gens qui n'ont pas la grâce et qui font semblant de l'avoir. Il est bien vrai qu'une personne qui a la grâce et qui s'exerce à l'exhortation ou à la prière, si elle croit dans la grâce, elle va croître dans ses différents dons. Personne ne peut s'appliquer à obéir à Dieu sans progresser dans ces choses. Ne pas faire de progrès dans ces dons, c'est un signe certain qu'on ne croit pas, on ne peut pas croître dans la grâce. Mais il n'est pas certain, pas du tout, qu'on puisse croître dans la grâce parce que on fait des progrès dans certains exercices de piété. Car par la pratique, on devient plus habile, tout naturellement, et qu'on soit un chrétien ou qu'on soit même un simple hypocrite. Oui, c'est vrai. Sixièmement, quelle est la preuve de croissance dans la grâce? Il est un fait qu'une fois qu'on a la foi, la véritable foi, elle implicite et elle est plus étendue en Dieu et elle devient une preuve de croissance dans la grâce. Mettre en œuvre une confiance plus grande et plus implicite est une condition pour croître dans la faveur de Dieu. Si vous êtes conscient de pratiquer une confiance plus implicite et plus générale en Dieu, c'est une preuve que vous croissez en grâce, et tandis que vous manifestez dans votre vie, dans votre caractère, dans votre esprit, cette confiance grandissante, alors vous êtes une preuve pour vous-même et pour les autres que vous croissez dans la faveur de Dieu. Car en progressant dans une confiance implicite en lui, vous croissez nécessairement dans sa faveur. Un détachement toujours plus grand du monde est une preuve de croissance dans la grâce. La volonté peut avoir été livrée à Dieu, tandis que les charmes séducteurs du monde agissent encore très défavorablement sur le chrétien. Mais à mesure que l'âme et l'esprit est crucifié au monde, et plus sourdes vont être ses appels, et elle grandit, c'est certain, dans la faveur de Dieu. Mais vous avez, on peut dire, des tentations, et on peut avoir des tentations de péché par omission. C'est donc pas volontairement. On peut arriver à négliger les devoirs désagréables. Moins vous avez de tentation d'être indolent, d'éviter la responsabilité, de négliger la prière, la lecture des Saintes Écritures, le culte privé et le culte de famille. En résumé, vous avez de moins en moins de tentation d'éviter l'accomplissement d'un devoir. Et plus vous aurez de progrès dans la grâce, plus vous devenez vainqueur et que vous n'avez pas peur d'avoir une certaine discipline de vie, vous allez faire des progrès dans la grâce. Ces tentations, elles proviennent de l'excitation de la sensibilité. Quand elle diminue en force et en fréquence, c'est parce que notre sensibilité est complètement soumise à la loi de notre intelligence et aux décisions de la volonté. Nous constatons aussi que l'œuvre de la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps progresse et que dès lors, nous croissons dans la faveur de Dieu. Une intensité et une stabilité croissante dans le zèle pour l'avancement de la cause de Dieu. Ça, c'est une preuve de croissance dans la faveur de Dieu. Parfois, le zèle est relativement froid. Parfois, il devient profond et intense, parfois persévérant, d'autres fois changeant et même éphémère. Quand les chrétiens progressent en piété, croyez-moi, leur zèle devient profond, devient intense et stable. Si vous êtes conscient qu'il en est ainsi pour vous, et que votre vie et votre esprit en donnent la preuve aux autres, vous avez et vous donnez une preuve que vous croissez dans la faveur de Dieu. Perdre de plus en plus la préoccupation de soi-même, la considération pour soi-même dans chaque action de la vie, est une preuve qu'on croit et qu'on grandit dans la faveur de Dieu. Ne désespérez pas. Un pas après l'autre, quand vous montez un escalier, à partir de 60 ans, c'est pas dit que vous prenez deux marches à la fois. Peut-être, comme moi maintenant, une marche à la fois. Il y a des personnes tellement égocentriques en tout, ayant tellement d'égard pour elles-mêmes, et cela dans tout ce qu'elles disent et font, qu'elles sont embarrassées dans toute leur vie chrétienne. Chaque fois qu'elles essayent d'agir ou de parler en présence des autres, eh bien, ça marche pas comme ils veulent. Et à mesure qu'elles perdent cette préoccupation d'elles-mêmes, leur service pour Dieu devient enfin plus libre, plus aisée, et elle commence à servir Dieu d'autant mieux qu'elle pense moins uniquement à elle-même. Se regarder son nombril sans cesse. Parfois, de jeunes convertis ne peuvent parler ou prier ou accomplir un devoir en public sans en être fiers ou honteux. À mesure qu'ils se perdent eux-mêmes de vue et qu'ils vivent en la présence de Dieu et ne recherchent que sa gloire, ils croissent, ils grandissent de plus en plus dans sa faveur. Être toujours plus mort à la flatterie ou à la critique des hommes, ça, c'est une preuve de croissance dans la grâce. Saint Paul avait fait de tels progrès dans la grâce qu'il comptait pour peu de choses d'être jugé par un homme. Il ne cherchait que à être approuvé de Dieu. Premier épître de Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Une croissance dans l'acceptation totale de toute la volonté de Dieu est une preuve de croissance dans sa faveur. Quelques-uns se révolte contre sa volonté telle qu'elle est révélée dans sa sainte parole et dans sa providence. D'autres, dans des circonstances adverses, la supportent à peine. Mais ceux qui croissent dans la grâce font l'expérience qu'il leur est plus naturel d'accepter de plus en plus de tout leur cœur toute la volonté révélée de Dieu. Un calme et un repos croissant sous le poids de grandes afflictions sont également une preuve de croissance dans la faveur de Dieu. Cela témoigne d'une foi plus mûre, d'une acceptation plus complète et totale de la volonté de Dieu selon qu'elle se révèle dans ses afflictions et l'âme et l'esprit se montrent plus affermis et ancrés sur Christ son rocher. Une patience croissante lorsqu'il y a des provocations est une preuve de croissance dans la faveur de Dieu. Être moins tenté de murmurer ou d'être mécontent dans les diverses dispensations de Dieu à notre égard est une preuve de croissance dans la grâce. Avoir moins de tentations, de s'irriter lorsque nous sommes contrariés ou déçus par quelque chose est une preuve de croissance dans la grâce. Être toujours moins porté au ressentiment et à l'esprit de représailles, surtout quand nous sommes insultés ou maltraités, est également une preuve évidente que notre sensibilité est toujours plus parfaitement subjuguée et par conséquent que nous croissons dans la faveur de Dieu. Moins de tendance à grossir nos épreuves et nos ennuis, à nous y appesantir, à penser uniquement à eux et à en parler aux autres, est une preuve que nous pensons toujours moins à nous-mêmes et que nous acceptons les épreuves et les ennuis avec toujours plus de joie en Dieu. Il est triste d'entendre des gens s'appesantir sur leurs ennuis et leurs épreuves et même de les grossir. Mais s'ils croissent, s'ils grandissent en grâce, ils s'y prendront de moins en moins garde et les considéreront comme de légères afflictions. Plus nous croissons dans la grâce, moins nous ajoutons d'importance aux mots que nous rencontrons sur le chemin. Un homme qui passait par ce que le monde appelait de dures épreuves. Oh oui, car il avait perdu une épouse bien-aimée qu'il avait aimée pendant 40 ans. Et ses enfants étaient également morts, l'un après l'autre. Cet homme me dit un jour, « Il m'est accordé beaucoup de grâce et j'ai peu d'affliction. » Lorsque dans de telles circonstances, un homme peut dire « Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. » Psaume 16, verset 6. Alors, il a la preuve la plus satisfaisante qu'il progresse dans la faveur de Dieu, car cet état d'esprit est à la fois un résultat et une preuve de cette faveur. Une disposition croissante à faire peu de cas de nos épreuves et à exalter nos bénédictions est une preuve que nous croissons dans la faveur de Dieu. Chers amis, une promptitude et une cordialité croissante dans le pardon et l'ensevelissement à jamais d'une offense est une sorte d'incapacité morale de faire autrement que de chercher le plus grand bien de ceux qui nous ont fait le plus grand tort. Ça, c'est une preuve de croissance dans la grâce. Lorsque nous trouvons toujours moins de répugnance à faire une pleine confession à ceux que nous avons offensés, et ça arrive, lorsque, avec une promptitude croissante, nous ouvrons notre cœur pour qu'il soit sondé, lorsque nous accueillons le reproche d'avoir mal agi, lorsque dans un cas semblable nous n'avons pas de repos jusqu'à ce que nous ayons fait la plus complète confession, la restitution en notre pouvoir, et lorsque l'aveu, la confession et la réparation la plus complète sont pour nous une véritable satisfaction plutôt qu'une épreuve ou une croix, nous avons la preuve que nous croissons dans la faveur de Dieu. Alléluia. Quand nous sommes de plus en plus impressionnés et touchés par les compassions de Dieu et les bontés des hommes, quand nous sommes de plus en plus humiliés et touchés de ses bontés, que nous trouvons toujours plus naturel d'agir justement, d'aimer la miséricorde, de marcher humblement, Michée, chapitre 6, verset 8, et de vivre dans la reconnaissance, nous avons la preuve que nous croissons en faveur auprès de Dieu. Quand nous nous sentons poussés avec une force grandissante à aller de l'avant pour mieux connaître le Seigneur, nous avons une preuve de croissance dans la grâce. Quand nous sommes plus promptement impressionnés, attirés, vivifiés et stimulés par la vérité, quand nous constatons un accord toujours plus grand entre notre intelligence, notre volonté et nos sentiments pour accepter de demeurer dans toute la volonté de Dieu, quelque pénible qu'elle puisse être, nous avons la preuve que nous croissons en grâce. Une jalousie croissante pour l'honneur de Dieu, pour la pureté et l'honneur de l'Église, pour les droits de Dieu et pour ceux de tous les hommes. Ça, c'est une preuve de croissance dans la conformité avec Dieu et nécessairement dans sa grâce. Et pour terminer, eh bien, chers amis, septièmement, comment pouvons-nous croître dans la grâce? Chers amis, rappelez-vous que tout pas en avant doit être fait par la foi et non par les œuvres. L'erreur que des hommes pieux ont fait à ce sujet est vraiment étonnante. Cela a été une coutume presque universelle de représenter la croissance dans la grâce comme consistant en la formation d'habitudes d'obéissance à Dieu. Chaque progrès dans la vie chrétienne s'opère par une appropriation nouvelle et plus complète de Christ au moyen de la foi, par un baptême plus complet du Saint-Esprit. À mesure que nos faiblesses, nos infirmités, nos péchés habituels et nos besoins nous sont révélés grâce aux tentations créées par les circonstances, notre seul secours efficace se trouve en Christ. Si nous sommes de plus en plus vidés de la confiance en nous-mêmes, si nous abandonnons de plus en plus tout espoir de former de saintes habitudes par une obéissance qui nous soit propre à nous, et si nous revêtons le Seigneur Jésus-Christ de plus en plus complètement, selon Romains chapitre 13, verset 14, et dans un plus grand nombre de ses relations avec nous en sa qualité de rédempteur, alors dans cette même mesure, nous croissons plus rapidement dans la grâce de Dieu. Rien n'est plus erroné et plus dangereux que l'idée communément reçue qu'on croit dans la grâce par de saintes habitudes. C'est seulement par des actes de foi que nous nous approprions Christ et nous sommes aussi véritablement sanctifiés par la foi que nous sommes justifiés par la foi. Si vous voulez croître dans la grâce, vous devez le faire par la foi. Vous devez, avec foi, prier pour obtenir le Saint-Esprit. Et à chaque pas en avant, vous devez avoir par la foi une nouvelle onction du Saint-Esprit. Donc, nous voyons l'importance immense de bien instruire les nouveaux convertis. Trop souvent, ils ne reçoivent que très peu d'instructions appropriées à leur expérience et à leur degré d'intelligence chrétienne. Il y a des personnes qui adoptent de telles idées sur la persévérance des saints qu'elles supposent que les enfants en Christ grandiront sans qu'on les soigne et sans ce lait pur de la Sainte Parole au moyen duquel ils doivent croître. D'autres persuadés que les nouveaux convertis ont besoin d'être instruits leur donnent sans le savoir un faux enseignement et les incitent à une extériorisation zélée de leur vie religieuse sans faire grande attention à l'affermissement et au développement de leur vie intérieure. Il ne leur enseigne pas comment s'approprier et vivre Christ comme étant leur vie. Continuellement, ils insistent pour qu'ils fassent leur devoir, travaillent pour Dieu, travaillant pour les âmes, tandis qu'ils ne mettent pas suffisamment l'accent sur l'idée que ce qu'ils font ne compte pour rien, à moins que cela ne procède de la vie de Dieu dans leur âme et esprit. Le résultat en est une activité fiévreuse extérieure, tandis que la vie spirituelle intérieure, elle décline. À la fin, ces âmes ne peuvent que être dégoûtées d'agir sans conviction profonde et elles retombent inévitablement dans l'apathie et dans la négligence. D'autres fois, l'erreur est commise dans une direction opposée. On leur enseigne à se reposer totalement en Christ, on leur fait adopter, une sorte de quiétude et une inaction néfaste. Donc, on les exhorte à mettre en œuvre la foi, mais on ne s'applique pas du tout à créer en eux la conviction que ce doit être une foi opérante, agissante par l'amour, une foi qui purifie le cœur et qui triomphe du monde. Les pécheurs peuvent continuer, oh oui, à dormir au milieu des nouveaux convertis et aller en enfer, tandis que ceux-ci ne font absolument rien pour les sauver. Et oui, c'est vrai tout cela. Les écoles de théologie devraient veiller beaucoup plus sur la croissance en grâce de leurs étudiants. Elles ont besoin d'un professeur de religion expérimentale qui ait assez d'expérience et de puissance pour les conduire fermement en avant vers les régions supérieures de l'expérience chrétienne, sans la connaissance desquelles les futurs pasteurs ne seront pas capables de conduire l'Église à la victoire. Il est étonnant de voir combien peu d'efforts sont faits pour cultiver le cœur des jeunes gens qui se préparent au ministère. Le docteur A. Green a écrit en parlant du collège, et il ne désire pas donner le nom exact de la ville, nous dirons du collège de P. Pendant que j'étais professeur du collège, parmi les étudiants, il n'y en avait que deux qui faisaient profession de christianisme et seulement cinq ou six qui ne se sentaient pas libres de faire usage d'un langage vulgaire dans leur conversation. Lorsque je fus nommé président du collège, j'étais fermement résolu à opérer une réforme ou à abandonner mon poste. Sans l'intervention de prédications extraordinaires, après 4 semaines environ, presque tous les étudiants étaient fortement impressionnés. Il semblait que le collège tout entier cherchait à saisir carrément le royaume de Dieu. En terminant notre étude, disons tous ensemble, oui, il faut que cela change. Il faut exiger un plus haut degré d'expérience chrétienne comme condition de la consécration pastorale. Il est triste de constater combien soigneusement on examine les jeunes gens sur leur développement uniquement intellectuel, tandis que le récit qu'ils font de leur expérience chrétienne permet à peine d'espérer qu'ils sont convertis. Et il est triste de charger de tels jeunes gens de conduire l'Église. De vieux chrétiens se lamentent lorsqu'ils voient désignés comme pasteurs de l'Église de Dieu des hommes et des femmes qui ne sont encore que des enfants en Christ. Je n'ai jamais assisté à la consécration d'un candidat au saint ministère où il ne lui ait été demandé autre chose que la preuve de sa conversion. Je n'ai jamais entendu que les candidats fussent interrogés sur leur progrès dans la vie chrétienne et sur leur capacité spirituelle de conduire le troupeau de Dieu dans les verts pâturages près des eaux paisibles. Jamais je n'ai entendu qu'ils fussent interrogés en tenant compte des qualités spirituelles indispensables à un homme ou une femme qui doit rester debout comme conducteur ou instructeur spirituel de l'Église. On passe beaucoup plus d'heures à s'assurer du développement intellectuel uniquement d'un candidat uniquement sur le plan intellectuel, on y passe des heures. Par contre, on passe que quelques minutes à s'assurer de son développement spirituel et pratique. Nous dirons là, ensemble, Amen. Et je vous conseille, chers amis, de réécouter une telle étude pour mieux l'assimiler, car vous savez très bien que Jésus se répétait, et les disciples et les apôtres d'eux-mêmes. Dans la Bible, vous trouvez des mots et des phrases répétées de multiples fois. Cela a une raison et un sens, car nous sommes que de faibles humains. En tout cas, moi, je l'ai compris. Nous pouvons terminer par la prière. Nous n'aurons pas le temps de faire une longue prière, ce n'est pas important. Ô Dieu qui t'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui te plaît à te glorifier dans la foi et dans l'obéissance de tes enfants, donne-nous d'être vraiment des enfants d'Abraham. Apprends-nous, Seigneur, cette foi absolue, cette confiance inébranlable qui produira en nous, comme en ton serviteur, une obéissance sans réserve. Donne-nous une conviction si ferme que tu ne nous imposes qu'une discipline paternelle et salutaire, que nous soyons autour de toi comme des enfants tendres, soumis, disposés à remettre entre tes mains, si tu nous les demandes, tous les biens que nous avons reçus de toi. Combien nous nous égarerions souvent loin de toi, si par les épreuves même et par les déchirements dont notre vie est pleine, tu ne voulais nous rapprocher de toi, le consolateur de nos âmes, de notre esprit, pour les remplir de ta présence et de ton amour. Tu nous dis, crois seulement, et il vous sera fait selon votre foi. Que ces paroles nous soient un secours puissant à l'heure de l'épreuve, surtout avec les temps, ou même dans les journaux d'hier, il était marqué « Le pire est à venir ». Et que nous nous laissions aller entre tes bras, sans résistance, comme un enfant dans les bras de sa mère. Ô Dieu, qui a immolé pour nous ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, nous adorons tes voix, nous embrassons ta main paternelle, même lorsque elle nous humilie. Et nous te rendons grâce de ce que tu es notre Dieu et notre Père, et le Dieu et le Père de tous ceux qui s'approchent de toi dans la foi par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen. Amen. Et chers amis, que le Seigneur vous bénisse. À demain matin, Dieu voulant, pour la deuxième partie de cette longue série, l'importance de la rédemption. Au revoir.